pas.
18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver, vous le savez c'est parti. En ce début de semaine nous allons parler, consacrer eh bien la demi-heure au menu de ce spécial 17 octobre 1961. Une série de personnalités, d'acteurs politiques mais également aussi associatifs vont défiler sur son antenne dans les informés pour parler eh bien, des différents événements qui se déroulent en France. Voilà le programme que je vous propose, 18h30 le face-à-face, on viendra sur la marche de Mélenchon, succès ou pas, et puis la grève de demain, peut-on parler de journée noire? Eh bien, le menu, c'est celui-là que je vous propose, mais également vous aussi au 01 53 48 3000. Allez, c'est parti les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour la série d'interviews consacrée au 17 octobre 1961.
Les informés, l'interview.
On va commencer, vous savez, ce 17 octobre 1961, justement, on parle de massacre, on parle d'exécution, d'une centaine de manifestations, souvenez-vous, le 17 octobre 1961, qui reste encore méconnu, hein, selon certains historiens. Alors, on va accueillir, vous savez quoi, des acteurs politiques, mais également aussi des acteurs associatifs. Et on va commencer par, justement, un élu, mais également aussi un représentant d'un collectif. En mars, là aussi, du côté d'Argenteuil. Et on va les accueillir tous, partout en France, pour ceux qui organisent des événements. En mars, là aussi, bonjour.
Bonjour Adil, bonjour tout le monde.
Bienvenue pour ce spécial Les Informés, 17 octobre 1961. Justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui les événements qui se déroulent avec votre collectif Devoir de Mémoire votre collectif qui s'intitule, rappelez-le-moi,
Banlieue Nord-Ouest, collectif 17 octobre 61, voilà, donc qui draine les villes de Colombes, d'Argenteuil, même y compris en vérité, il y a Saint-Denis dans cette affaire-là, Beson, etc. Alors nous, ce soir, il y a plusieurs rendez-vous. Il y en a un à Colombes à 18h précisément pour placer une plaque du 17 octobre 61 juste en face de l'école Simone Veil.
Oui.
À 18h30, il y a un autre rendez-vous au pont de Beson justement pour rendre encore une fois un hommage à ceux et celles qui ont été jetés à la Seine. On se retrouve à Argenteuil à 20h30 pour passer un film qui s'appelle Dissimulation d'un massacre, en présence du réalisateur Daniel Kupferstein. Voilà, ça c'est rien que pour la journée d'aujourd'hui. Il y a d'autres initiatives demain, tout ça sur notre page Facebook, Banlieue Nord-Ouest, collectif 17 octobre 61.
J'entends justement Omar Slaouti. Vous, en tant qu'élu, est-ce que vous pensez aujourd'hui que j'ai vu le tweet du président de la République, je ne sais pas si vous avez prêté attention, où il fait référence au 17 octobre 61. Est-ce que vous pensez qu'il fait un pas supplémentaire ou est-ce que, selon vous, il est temps aujourd'hui de franchir le pas, d'aller encore plus loin, Omar Slaouti?
Oui, aujourd'hui, tout le monde s'accorde, des gens sérieux. Je dis bien les gens sérieux, c'est-à-dire des militants qui travaillent ces questions depuis longtemps. Je pense aussi aux historiens, aux historiennes, aux universitaires. On a suffisamment d'archives pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé le 17 octobre 61 relève d'un crime d'État.
Aujourd'hui, vous parlez de crime Macron, d'État, vous, hein?
De crime d'État, absolument, dans le sens où ça a été manigancé, ça a été planifié au plus haut lieu de l'État, dans ce qu'on appelle, vous savez, ils ont un jargon qui s'appelle faire un chèque en gris. Faire un chèque en gris, c'est-à-dire donner des consignes, mais pas suffisamment claires pour pas que ça se retourne contre les responsables qui ont donné les consignes. Voilà ce que c'est qu'un chèque en gris. Donc De Gaulle était au courant de la situation, il a lui-même donc ordonné tout cela. Il avait d'ailleurs une formule concernant le 17 octobre 61, il disait « c'est regrettable, mais c'est secondaire ».
Oui.
Eh bien, vous voyez, quand on a des centaines de personnes, 200 environ, qui ont été jetées à la Seine, parfois les pieds mal liés, non, c'est pas secondaire, ça s'appelle un crime d'État.
Justement, dites-moi, vous parlez de crime d'État, vous avez lu le tweet du chef de l'État, Emmanuel Macron?
Non, écoutez, je sors du travail, j'ai pas eu connaissance du tweet d'aujourd'hui de Macron, il me les envoie pas avant de les publier, donc je sais pas trop ce qu'il a dit. Mais s'il parlait de crime d'État, ça serait... Qu'est-ce qu'il dit précisément, Adil?
Le chef d'État ne parle pas de crime d'État. Le chef de l'État, évidemment, emploie d'autres termes que je vais vous soumettre tout de suite, hein, en direct. à l'antenne, à Paris, il y a 61 ans, la répression d'une manifestation d'indépendantistes algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. Vous répondez quoi ?
Ben, je réponds que c'est la répression, c'est en deçà de la réalité. Ce n'est pas une répression. Ça ne s'appelle pas une répression. Ce qui s'est passé là, il faut bien comprendre, ça a été planifié par le général de Gaulle lui-même avec une chaîne de commandement jusqu'au préfet Papon qui déjà s'était fait notoirement connu avec la déportation de Juifs. On a là en réalité à chaque fois des euphémismes, on tourne autour du pot. Bien évidemment qu'il s'agit de crimes, puisque dès lors qu'il y a des gens qui meurent sous les coups de la police ou autres, ce sont des crimes, mais crimes d'État. Si on ne comprend pas l'importance d'articuler crime à État, alors on passe à côté de la réalité historique. Voilà, donc il faut absolument faire le lien entre les deux, ce que Macron ne fait pas, M. Macron ne fait pas, comme M. Hollande ne faisait pas précédemment. Alors on le dit d'ailleurs, je peux me permettre à dire, il est question de mettre en place une commission d'enquête, d'études historiques avec des historiens algériens et français.
C'est ça.
Aujourd'hui, il y a un papier de Sylvie Thénault, qui est une historienne du CNRS, spécialiste de la guerre d'Algérie, qui dit que c'est une supercherie monumentale. On a suffisamment d'archives en France, les recherches sont suffisamment étayées pour pouvoir parler de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité aujourd'hui. Et donc, il y avait une fameuse phrase d'un homme politique français qui disait...
Omar Slaouti, ouais. Vous considérez, quand je vous écoute parler, que la France n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans notamment les guerres qu'elle a menées. Et la vérité, vous la considérez, vous, partiellement en marche?
Je ne sais même pas si elle est en marche. En tous les cas, les historiens et les historiennes, eux, ont largement fait le bilan des choses aujourd'hui. C'est vraiment incroyable que les politiques aient un train de retard, pour ne pas dire davantage. Aujourd'hui, nous savons ce qui s'est passé. C'est une vérité historique lorsqu'on parle de crimes de guerre et de crimes d'État pour le 17 octobre 61. Il est temps que les politiques puissent assumer ça. Vous savez, il y a eu plein de pays colonisateurs. Hein. Il y a eu la Belgique, l'Angleterre. Ils ont reconnu, y compris eux-mêmes, des crimes de guerre. Ils l'ont reconnu officiellement. La France, on a toujours ce problème-là de reconnaissance de ce qu'a été ces crimes commis en Algérie. Voilà, donc on va poursuivre notre combat. Et je voudrais, Adil, donner... une belle perspective pour ceux et celles qui nous écoutent, avec Chérif Cherfi, qui est une des chevilles ouvrières de ce collectif banlieue Nord-Ouest. On aimerait pour l'année prochaine faire une convergence de tous les marcheurs et toutes les marcheuses le 17 octobre 61 vers le pont de Neuilly, qui à l'époque a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Mais l'idée, c'est d'y aller tous ensemble en dimanche, comme elles avaient fait. On se met en costume trois pièces, on met la cravate. Voilà, on se met en tailleur pour les femmes, on s'habille ou avec les tenues traditionnelles parce qu'elles sont évidemment magnifiques et elles sont importantes.
Merci.
Et on va l'année prochaine manifester pour le 17 octobre 61. Voilà.
Grand merci Omar Slaouti d'avoir été avec nous. Vous êtes un élu sur la ville d'Argenteuil, mais notamment le représentant du collectif donc du 17 octobre 1961. Merci Omar Slaouti.
Merci à vous, au revoir.
On continue de parler du 17 octobre 61, vous le savez, je vous le disais, on va faire un petit tour d'Île-de-France, mais aussi de France, et on va aller accueillir, avant d'accueillir Philippe Nadjiboyaki, Mehdi qui est dans le sud, sur la ville de Perpignan. Bonjour Mehdi Belabbas.
Bonjour Adil.
Vous représentez quel collectif précisément, Mehdi Belabbas?
Alors moi je représente l'association pour la mémoire contre l'oubli, mais membre du collectif du 17 octobre 61 avec le collègue Omar Slaouti que vous avez eu juste avant.
Dites-moi, vous considérez aujourd'hui, avant de parler évidemment de la commémoration et des événements que vous organisez, vous Mehdi Belabbas, est-ce que la France aujourd'hui occulte ce crime d'État perpétré en octobre 1961 contre des manifestants algériens?
Pour l'instant, en tous les cas, la définition de crime d'État, elle ne peut pas s'appliquer parce que l'État ne reconnaît pas sa responsabilité. Il y a eu une reconnaissance partielle.
Je récupère crime d'État parce que Omar Slaouti a utilisé ce terme.
Ouais. Non, mais pour l'instant, ce terme, il est juste parce que les policiers français qui ont tué des Algériens le 17 octobre 61 l'ont fait sous les ordres d'un préfet de police, Maurice Papon, sous les ordres lui-même d'un ministre de l'Intérieur, Michel Debray, qui était ministre d'un gouvernement de la République. Donc c'est un crime qui a été initié, porté par des représentants de l'État et qui a ensuite été camouflé également par l'État français. Parce qu'il y a ça aussi, non seulement il y a les crimes, il y a son occultation pendant des années. Il aura fallu attendre le travail de notre estimé collègue disparu, Jean-Luc Kennedy, historien et éducateur, qui nous a quittés malheureusement, pour avoir la vérité sur les événements du 17 octobre 61, parce qu'il y avait une charte de plomb sur ces événements-là, et nous, on attend toujours l'ouverture des archives pleine et entière pour qu'on puisse faire toute la lumière sur ça.
Dites-moi, Mehdi Belabbas, vous justement, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Quels ont été les rassemblements, les événements consacrés au 17 octobre 1961? Notamment, alors, on a vu avec vous des personnalités politiques.
Oui, nous, on a aujourd'hui organisé une initiative dans le Val-de-Marne, au cimetière parisien de Thiers, parce qu'on a découvert que des victimes du 17 octobre 1961 avaient été enterrées dans une fosse commune du cimetière parisien de Thiers. Ce sont des militants de Chevilly-Larue et de Thiers qui nous ont alertés là-dessus. Et en lien avec la députée France Insoumise, Mme Rachel Tété, on a organisé une commémoration au cimetière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de monde qui savent qu'aujourd'hui, on avait des victimes qui étaient enterrées là-bas. Ces victimes ont été déplacées. Leurs dépouilles ont été déplacées il y a quelques années. Et personne ne sait où elles ont été déplacées. Donc, vous voyez, le drame, il les a poursuivis jusque dans la tombe, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas où sont leurs sépultures. Et donc voilà, donc on a eu cette initiative-là, et puis il y a ma collègue Alima Menouf, coprésidente de l'association pour la mémoire contre l'oubli, qui, avec la mairie de Montreuil, elle est maire adjointe à Montreuil, a tout un programme de commémoration. Là, en ce moment, elle ne pouvait pas être avec nous, d'ailleurs, je tiens à l'excuser, parce qu'elle est justement sur sa commune en train de présider les commémorations. Mais des commémorations partout dans toute l'Île-de-France et aussi en province, bien évidemment.
Mehdi Belabbas, justement, honorer, vous le disiez vous-même, honorer les victimes du 17 octobre 1961, c'est aussi reconnaître cette répression meurtrière, et c'est aussi d'une façon de continuer de sensibiliser le grand public, Mehdi Belabbas.
On a besoin d'avoir ce travail d'éducation populaire. Pourquoi ? Parce que si on ne souhaite pas reproduire demain les mêmes erreurs, il faut bien éduquer et rappeler le passé douloureux de notre pays. On le fait pour tout un tas de situations. On le fait pour la guerre mondiale, la première guerre mondiale le 11 novembre. On le fait pour le 8 mai 45, pour la seconde guerre mondiale. On le fait également pour le 14 juillet. On valorise dans l'espace public l'histoire de notre pays, la mémoire de notre pays, en honorant parfois les disparus, en honorant les grands hommes de la République ou les grandes femmes de la République de plus en plus. Mais cette histoire-là, l'histoire de la colonisation, dans la mesure où elle n'est pas très glorieuse pour la République, on n'en parle pas. Et pourtant, combien nous sommes-nous d'enfants issus de cette histoire-là, issus de la colonisation, issus de l'immigration, qui sommes les porteurs et les porteuses de cette histoire douloureuse? Il faut bien qu'on ait, nous aussi, notre part d'histoire et de vérité et de justice. Donc on a un travail d'éducation populaire là-dessus, de sensibilisation auprès des élus. Moi aujourd'hui, vous le savez, Adil, je suis à Perpignan. Perpignan, c'est une ville dirigée par le Rassemblement National. Et on a le maire de la collectivité, Louis Alliot, qui souhaite prochainement dénommer une place du nom de Pierre Sergent, ancien leader de l'OAS, qui a soutenu les putschistes à Alger, qui a soutenu des terroristes, notamment les terroristes qui ont essayé d'assassiner le général de Gaulle. Et aujourd'hui, on va donner son nom à une place à Perpignan. Ça prouve bien qu'on a encore un gros travail à faire, parce que si nos élus sont capables, comme ça, d'aller célébrer des anciens terroristes, des factieux, des gens qui ont trahi les valeurs de la République, vous pensez bien que les questions liées à la mémoire de l'immigration, les questions liées à la mémoire de la colonisation, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et pourtant, nous sommes Français à part entière, et nous avons droit au respect et à la dignité pour nos morts et nos martyrs.
Merci, Mehdi Belabbas. Un mot peut-être pour celles et ceux qui vous écoutent?
Il y a des commémorations partout, mais le travail ne s'arrête pas le 17 octobre 1961. Il y a d'autres moments qui sont importants. La célébration de l'abolition de l'esclavage, les massacres de Sétif et Guelma le 8 mai 45. Il y a plusieurs dates comme ça dans notre histoire que nous devons travailler. Moi, j'invite tous les enfants de l'immigration, tous les enfants de l'histoire de la colonisation à transmettre cette histoire à leurs enfants, à participer aux initiatives de commémoration dans leur collectivité. Il y en a partout en France, vraiment, sur notre site, sur notre page Facebook de l'association pour la mémoire contre l'oubli, on a recensé les initiatives Grigny, Bonneuil, Choisy-le-Roi, Vichy-sur-Seine, Ivry, Saint-Denis, Deauville, Mitry-Mory, Rennes, Montpellier, Marseille. Dans toute la France, il y a des initiatives de commémoration.
Merci.
Voilà, donc, vraiment, les auditeurs à à s'engager sur ces questions mémorielles. Parce que c'est
merci Mehdi. Merci Mehdi Bellabès. Vous êtes le représentant de l'association pour la mémoire contre l'oubli. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Dans une poignée de minutes. À très bientôt, mon cher Mehdi. Dans une poignée de minutes, on va retrouver Philippe Nadjibourier, qui est le conseiller régional, justement, Île-de-France. Il sera avec nous puisqu'il sera en direct, justement, à la fois sur deux villes, Alfortville, mais également aussi Nanterre. Il vient nous raconter notamment ce 17 octobre 61 et Akli Melouli aussi qui sera avec nous pour représenter la ville de Bonneuil. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et dans les informés, on continue de parler du 17 octobre 1961. Vous le savez, comme le disent nos acteurs engagés justement sur ces questions, ne pas oublier. Très important. Philippe Nadjibourier, qui est un acteur politique, mais également, il est à la fois élu, conseiller régional en Île-de-France. Bonjour Philippe Nadjibourier. Bonjour. Philippe Nadjibourier, vous êtes avec nous ? Allô, allô. Philippe Nadjibourier, monsieur le conseiller régional, est-ce que vous êtes avec nous ? On va essayer de le rappeler, à mon avis. Je pense qu'il a décroché, je pense, hein, à mon avis. Comme il est en direct, soit sur Alfortville ou sur la ville de Nanterre, je pense comme il est en pleine commémoration, il est en plein événement, ça doit être ça, certainement. On a encore notamment aussi, on doit recevoir Akli Melouli, si vous voulez parler du 17 octobre 61, est-ce que vous considérez que, eh bien, il faut franchir un pas, le chef de l'État, et que doit franchir de nouveau un autre pas supplémentaire. Qu'attendez-vous de lui ? Est-ce que vous considérez, vous, auditeurs, qu'on en parle suffisamment ? Est-ce qu'on commémore en France, justement, suffisamment ce 17 octobre 1961 ? Venez en parler avec nous. Je vous attends partout en France, 01 53 48 3000. Philippe Nadjibouriaki, est-ce qu'on vous a récupéré ?
Oui, excusez-moi, Adil, j'étais en pleine commémoration à Nanterre.
Je sais. Je sais.
C'est le Alfortville et donc je suis vraiment désolé.
Pas de souci, tout vous rigolez, mais pas du si. Vous êtes en pleine commémoration, c'est ce que je disais. Vous étiez à Alfortville et vous êtes à Nanterre en ce moment, mon cher Philippe Nadjibouriaki.
Tout à fait, deux commémorations vraiment.
Vous pouvez nous décrire ce qui se passe en ce moment même, donc dans le cadre du 17 octobre 61. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord à Alfortville? Comment vous l'avez vécu cette commémoration? Et puis ensuite, là, vous êtes en direct de Nanterre.
Alors sur Alfortville, moment très fort. Lors du discours de Nasser Kétan, le président de Beurre FM, qui nous a raconté une page de sa vie que je ne connaissais pas, puisqu'il avait 8 ans au moment des faits. Il a pris 2 balles dans la main, nous a raconté ces fameuses nuits et semaines de ratonnade. On parle du 17 octobre, effectivement, qui est une date forte et symbolique, mais cela a duré pendant des semaines. Les ministres de l'OAS, ici en France, chassés du Bico, chassés du Bougnoul, chassés de l'Algérien. Ce couvre-feu inadmissible et honteux et scandaleux, décrété par un sinistre préfet Maurice Papon, qui s'est illustré quelques années plus tôt dans la déportation d'enfants juifs vers les camps de la mort. Et ben en 61, ce sinistre préfet a décidé de tuer et de faire tuer des Algériens qui manifestaient de façon pacifique pour la paix. Donc à Alfortville, je remercie le maire Luc Carvounas qui a décidé de mettre une plaque commémorative, de célébrer à partir de cette année et toutes les autres qui suivront la date du 17 octobre 1961, de planter un figuier qui symbolise la vie, qui symbolise aussi les racines algériennes que beaucoup connaissent. Ça a été un moment fort, un moment émouvant, je rappelle de cette histoire sombre. Et là, Patrick Jarry, avec il y avait le consul tout à l'heure d'Algérie, de Créteil, présent à Alfortville. Et là, il y a le consul de Nanterre qui est présent, avec des attachés de l'ambassade, ici à Nanterre, où il y a un boulevard du 17 octobre 1961. Moi, je salue le courage de tous ces maires à travers la France, ce matin avec Anne Hidalgo, mais d'autres, je pense à Bonvelin, je pense à des mairies en Île-de-France, mais en dehors de l'Île-de-France, bien évidemment.
Est-ce que cette commémoration, Philippe Nadjibouriaki, sur Nanterre, la ville de Nanterre, est-ce qu'elle draine du monde ?
Oui, alors il y a à peu près une centaine de personnes.
Oui, vous savez, c'est pas mal.
La météo n'aidant pas beaucoup de personnes témoins historiques. On a vu des jeunes personnes de cet âge-là, mais qui aujourd'hui sont encore vivants, on a témoins vivants de ces scènes d'horreur, de ces scènes affreuses. Et aujourd'hui, il n'y a pas de discours de haine. Il y a des discours d'apaisement, des discours de demande de reconnaissance, parce que la date du 17 octobre 1901 n'est toujours pas une date reconnue officiellement. Je ne comprends pas qu'attend le président de la République à faire les gestes. J'ai vu son tweet tout à l'heure, effectivement, ça nous touche tous et toutes. Mais il faut l'inscrire dans l'agenda mémoriel national. Oui. Comme l'autre 8 mai 49.
Est-ce qu'il faut, Philippe, vous êtes un élu, vous êtes conseiller régional, Philippe Nadjibouyaki, vous oui. êtes à l'antenne en ce moment. Je voulais vous donner un exemple. Vous savez, à Rennes, par exemple, une plaque pour commémorer le massacre du 17 octobre 61. Est-ce que c'est quelque chose qui vous retient votre attention? Et est-ce que c'est quelque chose, notamment, que vous suggérez un peu partout en France?
Je suggère d'abord que le président de la République inscrive à l'agenda mémoriel national. Et ça ne pourra faire que boule de neige. Vous savez, dans ma ville, la maire d'Orly, dite de gauche, a refusé nos vœux d'inscription à l'agenda mémoriel communal. Je sais qu'aujourd'hui, Mohamed Chiche va déposer un vœu au conseil départemental pour que ça soit une date mémorielle départementale. Il faut que dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France, j'ai envie de dire, parce que c'est un problème, comme l'a dit très bien tout à l'heure Nasser Kétain, c'est un problème franco-français. Ça, c'est crime. Ces atrocités se sont passées sur le territoire français, ici, à Paris. On a tué des femmes, des enfants, des hommes. La police française, sur ordre du préfet de police, qui est le premier représentant de l'État dans un département, a donné l'ordre. Donc, c'est une histoire étatique. Donc, il faut que l'État le reconnaisse de manière officielle, nationalement, et par boule de neige et effet domino, dans toutes les villes de France et villages de France, nous devons commémorer ces dates, pas pour culpabiliser qui que ce soit, pas pour demander réparation, mais juste reconnaissance de cette page sombre de l'histoire de France.
Dites-moi, Philippe Nadjibouyaki, justement, concernant ce massacre, il y a plusieurs messages, évidemment, qui ont été... que je vois passer sur les réseaux sociaux. Vous, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on s'en subit suffisamment concernant le 17 octobre 61? Quand je vois, par exemple, le collectif des Algériens de France qui appelle, évidemment, à plus de mouvements, plus d'événements, plus de manifestations. Et une manifestation pacifique d'Algériens et de Franco-Algériens a été réprimée dans le sang. Il rappelle les faits. Les manifestants condamnaient le couvre-feu et la politique discriminatoire mise en place par le préfet de police, vous l'avez dit vous-même, Maurice Papon, rappelle le collectif. Aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, il faudrait faire quoi, selon vous, conseiller régional?
Effectivement, il faudrait surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière étatique, mais il faudrait aussi que ça soit inscrit dans les manuels d'histoire. Comment voulez-vous que le français lambda, qui aujourd'hui grandit avec des manuels, dans lesquels on parle de la préhistoire, on parle du Moyen-Âge, on parle de l'histoire de France. Et cette page de l'histoire de France s'arrête à partir de 39-45, en réalité. Après, il n'y a plus rien. Oui. Et pourtant, il y a eu le Vietnam, il y a eu le Cambodge, il y a eu la décolonisation, puisqu'il y avait une colonisation. Il y a une histoire réelle. Alors, elle ne peut pas s'arrêter que quand la France est victorieuse de la barbarie nazie et du fascisme qu'il y a eu en Espagne et en Italie. Et la France a commis des atrocités. Et ce n'est pas de demander de repentance. Enfin, je ne veux pas opposer les uns les autres et augmenter la haine. C'est au contraire, être capable de reconnaître les pages sombres, ça passe par l'histoire. Et donc, ça passe par l'éducation, donc ça passe forcément par l'éducation nationale. Et vous pouvez ouvrir vos bouquins, ça s'arrête à 39-45.
Dites-moi, avant de retrouver Aklim et Louli, justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Philippe Nadjibouyaki, vous, conseiller régional, monsieur le conseiller régional, à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Vous êtes à Nanterre, notamment, où se commémore le 17 octobre 61. Vous nous avez dit qu'il y a une centaine de personnes. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message?
Un message d'amour et de fraternité. Vous savez, tout à l'heure, à Alfortville, on a conclu la commémoration par deux hymnes. L'hymne national de la République populaire et démocratique d'Algérie et l'hymne national de la République française. Nous sommes le pont entre ces deux rives. Nous sommes l'avenir. La France a besoin de la Méditerranée. La Méditerranée a besoin de la France et de l'Europe, ce qu'on appelle le fameux Euromède. La France a une place centrale, mais elle ne peut pas l'exercer tant qu'il y aura des réticences de part et d'autre sur une page sombre de son histoire. Nous appelons à la fraternité, nous appelons à l'amour, nous appelons aussi à connaître tout, à ouvrir et déclassifier, bien évidemment, et laisser les historiens faire leur travail, pas les politiques. Nous, les politiques, nous sommes là que pour répercuter ce que les historiens nous ont restitué. Mais pour pouvoir continuer à avancer ensemble, il faut ouvrir ces pages et les mettre en lumière. Il y a des choses qui ont été faites de façon ignoble et horrible. Ça doit être su. Les médias doivent en parler, comme nous en parlons toujours.
Merci.
Lorsqu'il s'agit de la Shoah,
merci.
Il faut être capable de parler de ces histoires du 17 octobre 1961 et de l'autre de 1945.
Merci Philippe Nadjibourier, qui est conseiller régional. Donc, à très vite sur notre antenne dans Les Informés. Merci à vous. Tout de suite, on continue d'accueillir celles et ceux qui, justement, continuent de commémorer le 17 octobre 1961. On est avec Akli Melouli, l'adjoint, justement, le maire adjoint de la ville de Bonneuil. Bonjour, Akli Melouli.
Bonjour d'Alger, Adil, parce que je vais être plus bref, parce que je suis à Alger, là. Sinon, et voilà. Donc,
justement, Alger, est-ce qu'il y a un écho concernant le 17 octobre 61?
Bah, c'est vrai que ça s'est pas passé à Alger, mais il y a toujours un écho, puisque tout ce qui concerne effectivement l'histoire et la réconciliation entre les rives est importante. C'est comme tout ce qui s'est passé avec l'Allemagne, il y a forcément un écho dans les deux rives. Ça va de pair.
Vous? Sur Bonneuil, votre ville, hein, justement. Comment on commémore le 17 octobre 61 à Clémélouli?
Aujourd'hui, le nouveau maire qui est. Parce que nous, on essaie d'être une ville, la ville des luttes, la ville des solidarités. Et donc, aujourd'hui, Bonneuil, avec le maire des Saônes et ma collègue Absa qui s'occupe de la vie associative, on va. Ils vont, parce que je ne suis pas sur place, ils vont effectivement. Travailler sur cette mémoire et on va déposer une plaque le 17 octobre pour qu'effectivement sensibiliser notre population aux luttes, à la solidarité, parce que l'égalité ne peut pas être à géométrie variable et l'histoire doit être dite, pas par le vainqueur, l'histoire elle doit être partagée par les peuples et tout, pour que justement on puisse tourner la page. Et ces gens qui manifestaient pacifiquement et qui ont trouvé la mort, ont été violentés, méprisés, c'est des noms, c'est pas des gens anonymes. Et donc il faut leur redonner cette dignité à eux, à leur famille. Et c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Vous savez, tant qu'on ne sait pas et tant qu'on n'a pas reconnu les choses, et tant qu'il n'y a pas la reconnaissance et qu'on ne le qualifie pas comme crime, eh bien c'est difficile de refermer la plaie et c'est difficile de se reconstruire.
Merci à Akli Melouli d'avoir été avec nous depuis Alger pour parler de Bonneuil-sur-Marne. Merci Akli, à très vite sur notre antenne.
Merci Adil, à très vite. Au revoir.
18h37 précisément. Tiens, je vais ouvrir le micro avant de marquer la pause. Justement, Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, on va ouvrir le micro. Un mot sur le 17 octobre 61?
Ah, 17 octobre 61, une date très importante. L'impérialisme français a démontré par cette date qu'il était sanguinaire, barbare. Et il y a eu le 17 octobre 61, mais qui reflète toute une perspective politique de domination et d'oppression qu'ont subi les Africains. Parce que derrière, on sait aussi que, par exemple, le SDSE, à l'époque, Service de Documentation Extérieure et du Contre-espionnage, avait un bras armé qui s'appelait la Main Rouge, par exemple, et elle était particulièrement terrible envers les Africains, notamment les Algériens, et pas seulement les Algériens, un peu partout en Afrique. On sait que, par exemple, l'OS, effectivement, ils en ont parlé, a été particulièrement violent. Et en fait, l'Algérie était assez particulière parce que l'impérialisme français avait, avait perdu à Dien Bien Phu. Il s'était cassé les dents devant le Viet Minh, communiste révolutionnaire Viet Minh. Et en fait, il a voulu, l'impérialisme français, par sa violence en Algérie, entre autres, a voulu démontrer qu'en fait, ce qui s'était passé à Dien Bien Phu, c'était une erreur. Mmh. C'était une erreur de parcours. Donc, l'Algérie française, l'Algérie colonisée, le peuple algérien qui avait été colonisé et qui a été martyrisé depuis les années 1870, hein, depuis la date à laquelle l'impérialisme français était intervenu, oui, effectivement, donc l'impérialisme a montré les dents à ce moment-là parce qu'il voulait montrer que c'était une erreur.
Nabil Ait Akash, bonjour.
Bonjour.
Tirez bien le micro vers vous. Hein. Vous, bonjour. Quel mot, qu'est-ce que vous dites quand on pense à cette date, 17 octobre 61?
Non, c'est une date terrible dans notre histoire et bien évidemment tous les gestes de reconnaissance, de mémoire qui iront vers l'apaisement seront les bienvenus. Je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, a montré sa volonté d'aller dans ce sens. Il y a une main tendue à l'Algérie. L'Algérie, de son côté aussi, répond. Il y a un travail qui doit être fait par les historiens pour qu'on ait en effet une histoire partagée, qu'on puisse penser un peu les plaies et aller de l'avant parce que ce sont deux peuples qui ont de grandes choses à faire ensemble. Voilà.
Merci, on se retrouve messieurs justement pour parler des sujets qui ont retenu notre attention, les quatre sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur la pénurie, le carburant, aïe aïe aïe, ça chauffe. On parlera aussi de la marche de Mélenchon hier. On parle de 140 000 selon la NUPES, mais également 30 000, 40 000, 50 000 selon la police. Bref, on verra, la question que je pose, était-ce un succès? Et puis on parlera aussi, vous savez quoi? Eh bien de cette grève. Peut-on parler de journée noire demain vers une journée? Grève générale. Ah, tiens, la question se pose. Et puis, Macron et le bonus de 1000 euros pour les voitures électriques. On reviendra sur ces sujets. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h45, c'est les informés. Les informés, c'est parti, chers amis auditeurs, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Et on va parler de tous les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Et on reçoit il n'est pas tout nouveau. Il était régulièrement là, mais simplement, c'est le retour de Nabil Aït Akkache. Bonjour. C'est le représentant du parti Renaissance, le parti évidemment macroniste. Vous êtes le représentant de la Seine-Saint-Denis.
Exactement. J'étais candidat aux élections législatives à Bobigny en juin 2022.
Merci. En tout cas, on vous accueille ici parmi nous. Jimmy Dalidou, que je ne présente même plus, représentant syndicat CGT, mais également aussi auteur. Bonjour, mon cher Jimmy Dalidou.
Bonjour à tous.
Eh bien, messieurs, tout de suite, on va parler de pénurie. Vous savez qu'Emmanuel Macron, il a réuni les ministres aujourd'hui à 17h pour parler justement de la situation concernant la pénurie, le carburant. Ça commence à chauffer un peu partout, hein, figurez-vous, parce que dans quelques jours, c'est les vacances de la Toussaint. L'État qui réquisitionne, vous savez, les raffineries. Jimmy Dalidou, je vous donne la parole. Cette pénurie, franchement, est-ce que c'est pas les grévistes qui ont continué de poursuivre leur grève, justement, alors qu'ils ont voté au sein de Total, la majorité a dit non, on arrête. Une partie minoritaire a dit on continue. Est-ce que c'est pas un peu tiré par le truc?
Oui, alors, d'abord, je dirais qu'il y a une pénurie de salaire et une pénurie d'espoir chez les travailleurs. Donc forcément, ça se reflète dans les luttes sociales. Ensuite, cette notion, il faut faire attention à cette notion de minorité, majorité, parce que la CGT, d'une manière générale dans le pays, effectivement, est très ancrée, est une organisation qui organise les travailleurs. C'est une fédération la plus puissante, et elle est plus ou moins représentée selon le secteur de production dans lequel vous êtes. Dans les raffineries, elle est assez présente, elle est assez représentée. Donc même s'il y a eu la signature de certaines organisations syndicales, la CGT elle compte beaucoup de militants et de sympathisants en son sein. Elle reflète une partie des travailleurs dans les raffineries au niveau national qui ont voté pour CGT, qui militent dans ses rangs. Et ça, il faut le respecter. Il faut faire attention à cette confusion que le gouvernement et ses copains,
on les donnera la parole tout à l'heure.
Entre minorité et majorité. Ensuite, là, les réquisitions, l'élément qui a énervé tout le monde,
oui,
ce sont effectivement les réquisitions. Alors, des éléments. Le premier élément, c'est la notion des réquisitions. Deuxième élément, c'est le fait qu'on présente ces grèves comme illégitimes. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on réquisitionne d'abord, parce qu'il parle de réquisitionner. Bon, dans ce cas-là, qu'on réquisitionne les 2 milliards planqués dans les paradis fiscaux, que les travailleurs ont produit et qui ont été ensuite planqués dans les paradis fiscaux, quand même, hein, 200 milliards. Je propose de réquisitionner aussi les 205,9 milliards de chiffre d'affaires de Total, et je propose aussi de réquisitionner les 286 milliards de chiffre d'affaires pour ExxonMobil. Je propose aussi de réquisitionner les 160 milliards de profits pour la seule année 2021 du CAC 40. Et je propose, vous savez quoi, je propose même de réquisitionner les députés qui gagnent 10 000 euros par mois pour dormir et pour tromper le peuple.
Justement,
donc,
concrètement,
actuellement, oui, on a des travailleurs qui sont en lutte et qui posent une revendication simple, mais qui est pourtant fondamentale et qui est universelle parce qu'elle touche tous les Français, quel que soit l'endroit où ils travaillent. Mmh. C'est l'augmentation des salaires et que les Français perçoivent un salaire convenable qui leur permettrait de vivre avec dignité,
Nabil,
décemment.
Nabil Aït Akkache. Alors, vous dites quoi?
Moi, ce que je dis déjà, c'est que les gens quand même galèrent. Les gens galèrent et c'est dû à cette situation. On est d'accord sur la question des salaires. Il y a un vrai sujet en France. On a essayé quand même pendant les 5 premières années
De redonner un petit peu des marges aux entreprises en baissant les impôts. On baisse pas les impôts parce qu'on aime les entreprises. On baisse les impôts parce qu'on veut leur redonner des marges pour pouvoir créer des emplois et faire de la redistribution.
Et je veux vraiment qu'on installe le débat.
Et faire de la redistribution, augmenter les salaires dans le cadre du dialogue social et pas dans le cadre d'une lutte et du chaos que est en train d'organiser aujourd'hui, est en train d'organiser certains partis politiques. Et il y a un moment, je pense qu'il faut se mettre autour de la table et pouvoir discuter de manière assez raisonnable. Quand je vous entends, je me dis que c'est pas possible, en fait, parce que vous avez
Il faut vraiment mettre le micro devant vous.
Qui n'est pas sérieux. Ce que vous dites en parlant de réquisition
vous allez lui répondre,
de 280 ouais. milliards, la France ne va pas aller le faire toute seule. On le fait, on porte ce combat-là au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'OCDE. On sait qu'il y a un sujet sur la lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment pour pouvoir aussi redonner un petit peu des marges de manœuvre aux États qui ont besoin de cette ressource fiscale. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, si vous voulez, là, les gens galèrent. Moi, je pense plutôt aux gens qui n'ont aucun autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller travailler, pour aller se soigner. Je pense aussi aux infirmières qui vont donner des soins aux personnes âgées. Tous ces gens-là sont pris en otage alors que le dialogue social doit fonctionner en
fameux,
France.
Le dialogue social
fonctionne en France. Il y a un accord qui a été...
Vous allez répondre. Allez-y maintenant, répondez-lui. Je veux vraiment qu'on installe le débat. Allez-y.
C'est assez marrant parce que tu parles de prise d'otage.
On en débat de façon intelligente.
Ouais, et on a l'impression à t'entendre que c'est forcément à partir du moment où la CGT, ou quelle que soit la formation syndicale d'ailleurs, à partir du moment où les travailleurs...
Mais il se trouve, vous êtes représentant de CGT, donc ça tombe bien.
À partir du moment où les travailleurs prennent un étendard, posent des revendications, c'est forcément une prise d'otage. Je te rappellerai quand même, petit détail que beaucoup d'auditeurs peut-être ne savent pas, c'est que, notamment dans les gros groupes multinationales, dans les raffineries, dans la SNCF et dans les gros groupes demain, il y a une grosse grève qui se prépare. Lorsque tu arrives à un préavis de grève, c'est lié à une procédure particulièrement complexe. D'accord ? C'est-à-dire que...
Mais Sanabili le sait.
Elle est normée, elle est réglementée, le droit de grève,
la négociation, elle a déjà eu lieu. C'est-à-dire, arrêtons de dire qu'il faudrait se mettre autour de la table avant de se foutre en grève, parce que le préavis de grève et la négociation est intégrée dans le processus. C'est-à-dire que s'il y a eu un préavis de grève, c'est que forcément, automatiquement, tu as eu des négociations qui n'ont pas abouti. Et ça, le problème, il est où le problème ? C'est qu'actuellement, tu parles de galère, mais tu n'as pas eu besoin de la grève CGT pour voir les Français galérer. Ça fait combien de temps qu'ils galèrent, les Français ? Ils galèrent depuis la crise sanitaire et même avant la crise sanitaire. Est-ce que ça vous inquiétait ? Alors, bizarrement, vous parlez de prise d'otage et de galère des Français. Et est-ce que vous en parliez à l'époque de la crise sanitaire que j'ai appelé la mascarade ? Est-ce que vous en avez parlé avant et après ? Non, vous en parliez pas. Vous étiez plutôt occupé à vos élections présidentielles.
Il va vous répondre. Nabila Itakash.
Je ne sais pas si la crise sanitaire était une mascarade. Quand on protège le salaire quand même et le pouvoir d'achat des Français pendant une crise mondiale, et je pense que la France à ce niveau-là a montré quand même qu'elle était capable de protéger les Français pendant cette période compliquée. Moi, je vais revenir sur la galère qu'ont les gens et sur le droit de grève. Le droit de grève, il est complètement légitime. J'ai pas dit qu'il était c'était pas possible de se mettre en grève et c'est le cas. Maintenant, la réquisition, c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est dans le droit, ça existe. C'est une mesure exceptionnelle quand les circonstances l'exigent. Là, les circonstances l'exigent. Je parlais tout à l'heure de la galère de ces gens. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le chaos.
Et beaucoup le pensent, c'est vrai. Hein, beaucoup. Autant il y a un consensus. Il y a une question qui fait consensus. Ouais. C'est vrai, il a pas tort, Nabil Aïtakash. C'est-à-dire qu'il y a 50-50 à peu près. 50 qui vous soutiennent, vous, représentant CGT, Jimmy Dalidou, et 50 qui se disent attention quand même tout de même. Pensez à nous. Il faisait référence. Nabila Itakash, c'est-à-dire sur les personnels soignants, les infirmières, les policiers, enfin bref, celles et ceux dont on a besoin, les pompiers. Et à un moment, ils réclament, ils disent de ne pas être pris en otage. C'est ça la France qui travaille, c'est ça la France aussi qui bouge.
Ah mais attendez, je pense qu'il faut
revenir. Beaucoup de Français s'identifient à votre grève. On est d'accord.
Il y a deux choses importantes. La première chose, c'est que le droit de grève, attention à cette notion de droit de grève, parce que le droit de grève, indépendamment du fait que c'est effectivement constitutionnel, le droit de grève, c'est d'abord un droit individuel, mais qui va à un moment se greffer dans un mouvement général, dans un mouvement collectif. Attention, le droit de grève, c'est pas d'abord et avant tout un droit collectif. C'est un droit individuel qui se greffe à un moment dans un mouvement collectif. Ça veut dire qu'à partir du moment où
Il faut l'exercer avec raison.
Ce droit individuel est mis en application
avec raison.
Et qui trouve une résonance les gens... dans un mouvement collectif et qui, de plus, pose des revendications.
Vous entendez ce qu'ils viennent de vous dire ?
Ouais, non, mais attendez, il y a des revendications.
Est-ce que vous le faites avec raison ?
Mais là, à partir du moment où...
Non, mais là mais, les grévistes CGT, là, quand ils tirent quand ils tirent sur la corde, là, c'est tirer sur la corde. Mais,
si vous laissez finir, vous allez comprendre. Une revendication, elle ne tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. Une revendication, elle émerge des discussions, des débats qui a eu lieu entre les travailleurs, leurs représentants syndicaux, et même parfois certains représentants de l'RH, parce que tous les éléments, les personnes de l'RH ne sont pas forcément aux organisations syndicales. Et donc, de ces discussions, de ces débats, et de cette expérience de vie, de cette expérience de la production, va germer des revendications qui, à un moment, soit sont très ciblées à un secteur de production déterminé, soit sont universalisables, comme par exemple l'augmentation des salaires. Parce qu'au départ, c'est parti des raffineries, mais c'est tous les Français qui galèrent au niveau des salaires. Donc, on part d'une revendication qui est universalisable, qui va être en plus combinée avec d'autres revendications qui sont liées à cette première revendication, c'est-à-dire conditions de travail, amélioration des conditions de travail, la charge de travail, parce que si tu augmentes les salaires, ça ne veut pas forcément dire augmentation de la charge de travail. Et donc, à partir du moment où cette revendication émerge de ces conditions, elle est forcément raisonnable. C'est ta position qui n'est pas raisonnable. Parce que ta position n'est pas raisonnable parce qu'elle permet de couvrir un gouvernement et des gouvernements qui, depuis des décennies, pulvérisent la classe ouvrière, les couches populaires, donc la majorité des Français,
c'est pas le gouvernement,
sur l'autel du
c'est
profit.
Pas le gouvernement
Nabil,
qui fixe
Nabil
les salaires.
Nabil
c'est pas le gouvernement qui fixe les salaires. Ici, on n'est pas dans une économie planifiée ou soviétique. C'est celle que vous souhaitez, je crois. Une économie soviétique qui a montré...
Est-ce que je t'ai parlé du RSS?
Mais oui, mais il y a que le RSS qui a fait ce que vous racontez. Les nationalistes...
Je parle des raffineries en France, je ne te parle pas des RSS.
Il y a que le RSS qui fait ce que vous...
Et je te parle des cheminots.
Non, il y a que le RSS qui fait ce que vous avez demandé. Donc, ce que vous avancez...
Effectivement, une économie planifiée serait plus rationnelle, oui.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas pouvoir planifier de manière stratégique des investissements, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire le gouvernement qui doit venir voir les entreprises et leur dire vous imposez ce salaire-là, et c'est comme ça, il y a un salaire minimum en France. Il évolue de manière dynamique, ce salaire minimum.
Ah non, il évolue pas du tout.
Il évolue peut-être pas assez, bien évidemment. On sait qu'il y a un sujet salaire, je vous le dis pas, je vous dis pas que c'est pas vrai. Il y a un sujet salaire. Les gens ne gagnent pas assez leur vie. Maintenant, il faut laisser le dialogue social.
Alors justement,
pour que les salariés puissent pouvoir...
Ah ben Nabil, Nabil Etakache et Jimmy Deledou, vous me permettez une excellente transition. Parce que demain, c'est, vous savez, la grève générale, grand point d'interrogation. Là évidemment, après, on reviendra sur la marche aussi. Je vais vous donner un mot sur la marche d'hier. La marche d'hier, c'est celle de Mélenchon. Est-ce que vous considérez que c'est un succès ou pas ?
Alors d'abord, je dirais que c'est pas la marche de Monsieur Mélenchon. C'est la marche des travailleurs.
C'est, la,
des c'est la marche des travailleurs exploités. C'est la marche des formations syndicales, politiques et des travailleurs exploités qui s'organisent à travers des
associations. Ça a été un échec ? Ça a été un succès ?
Alors moi je vous dis, je dirais qu'il n'y a pas d'échec dans une manifestation à partir du moment où il y a une réunion des travailleurs, une réunion des salariés, à partir du moment où ils se réunissent pour porter des revendications et qui sont à partir du moment qu'ils trouvent une solidarité entre eux, qui discutent, qui trouvent un terrain de discussion, de débat, et surtout à partir du moment où une manifestation...
Non, mais parlons d'hier.
Hier, elle a permis, comme toutes les manifs, d'éclairer la conscience des travailleurs, et à partir du moment et a fait son travail d'éclaircissement
conscience
des travailleurs, elle est forcément une réussite. Toutes les manifestations sont des réussites, en fait.
Donc c'est une réussite.
Est-ce que
pour vous, Nabil Etakache, ça attire l'attention de l'exécutif ?
Je ne sais pas si c'est un succès. C'est un succès pour qui ? Pour la personne de Monsieur Mélenchon qui ne comprend pas qu'il va de défaite en défaite. Il a été disqualifié de l'élection présidentielle. Il n'a pas été élu Premier ministre comme il le souhaitait. Il joue simplement une autre carte. Quand on est un responsable politique, le succès, c'est de trouver des solutions.
Enfin, plutôt nommer Premier ministre.
Il voulait se nommer Premier ministre lui-même. Hein, donc ça, c'est voilà. Le succès pour un responsable politique, c'est de trouver des solutions aux problèmes des gens qui galèrent. C'est pas d'aller manifester. Vous dites que ça a éveillé les consciences des travailleurs.
Toujours.
J'ai pas l'impression.
Toujours.
J'ai plutôt vu une manifestation politique, un agenda politique qui appelle au chaos et qui n'apportera rien. Le romantisme révolutionnaire que vous portez, que porte Mélenchon, il apportera rien.
La première chose, encore une fois, c'est pas la, manif de Monsieur Mélenchon, parce qu'il n'y avait pas uniquement les drapeaux.
C'est quand même Mélenchon qui l'a initié.
Oui, d'accord. Mais il y a aussi.
Il a pris date depuis quelques semaines. C'est vrai. Il a raison. Depuis cet été, ça a été annoncé.
Il l'a annoncé, ça a été suivi, mais ça ne veut pas dire que tous les travailleurs qui étaient dans la rue étaient forcément mélenchonistes.
Non, c'est vrai.
Il y a aussi des travailleurs qui étaient là.
La NUPES.
Parce qu'ils essaient de se sortir de l'individualisme à outrance qui est un véritable carcan existentiel, et ils trouvent des travailleurs comme eux avec qui ils peuvent discuter et débattre indépendamment du personnage Mélenchon. Ensuite,
Oh, mais cette mobilisation, c'était pas pour faire plier Macron ?
Mais en fait, il faut voir une manifestation, il faut la voir d'une manière dialectique générale. C'est-à-dire, à partir du moment où vous portez une idée.
Moi, je crois l'idée que c'est un peu conceptuel pour des gens qui ont des vrais problèmes concrets.
L'égalité sociale prend différentes formes sociales. C'est-à-dire qu'il faut voir ça d'une manière générale. Il n'y a pas plusieurs manifestations. Il y a une idée de l'égalité sociale qui prend différentes formes et qui se cristallise dans des manifestations. Donc, à partir du moment où vous mettez en exergue cette idée d'égalité sociale à travers différentes manifestations, indépendamment des dates que vous posez, à partir du moment, je réaffirme qu'à partir de là, à partir du moment où vous trouvez une solidarité de classe, une solidarité entre tous les travailleurs, et qu'il y a discussion et débat de tous les travailleurs, à partir de là, on s'oriente vers la réussite, nécessairement.
Je pense pas que les Français souhaitent que nos concitoyens, dans leur majorité, souhaitent cette forme de chaos.
L'égalité sociale, c'est du chaos.
Ah non.
À partir du moment où ça remet en cause les multinationales et les monopoles,
L'égalité sociale, ça doit être une réalité dans ce pays.
Bah, je comprends que vous soyez macroniste.
Non, ça doit être une réalité dans ce pays, et on doit tout faire pour y arriver. Je dis pas qu'elle existe de manière, comment dire, qu'on l'a atteinte, mais c'est un objectif vers lequel on tend. Je parle du
l'égalité des sociale. Moyens,
l'égalité sociale.
Ah
oui, l'égalité sociale.
Donc en enrichissant les riches et en appauvrissant les pauvres, pour vous, ça c'est le moyen pour accéder à l'égalité sociale.
Vous dites qu'on enrichit les riches, c'est complètement faux.
Tu peux demander à n'importe quel Français travailleur actuellement, ils vont te le dire. Ils vont dire que leur salaire.
Les clichés que vous avez alimentés.
Total Énergie, par exemple, ils vont te dire leur patron a eu il touche plusieurs millions et son salaire a monté de 52%.
Et dans le même temps, leur SMIC,
la plupart des opérateurs
d'argent.
Ça pour toi, c'est la
vision. Je fais la clochette.
Messieurs. C'est la version macroniste de l'égalité sociale.
Alors, cette mobilisation, est-ce qu'elle a été regardée de très près par l'exécutif, justement? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que vous considérez que cette marche contre la vie chère, justement, a permis peut-être à Elisabeth Borne, la Première ministre, tout simplement, de se dire, ah, effectivement, là, il faut qu'on agisse?
Non, bien évidemment, on la regarde quand même de près et on a quand même en souvenir ce qui s'est passé en 2019 avec la crise des Gilets jaunes. Donc on sait qu'il y a un mécontentement quand même dans le pays. La situation, elle est quand même difficile. Il y a une crise internationale quand même. Je voudrais remettre un petit peu de perspective. La situation est difficile pour les Européens, elle est difficile aussi pour les Américains, elle est difficile pour le monde entier en ce moment dans le contexte de crise pétrolière auquel on fait face. Donc oui, tout ce qui peut donner un signe sur le mécontentement des Français, bien évidemment, on le prend en compte et on essaie de trouver des solutions concrètes encore une fois. Et d'ailleurs, nous avons des résultats. L'inflation, vous voyez qu'en France, c'est quand même le pays qui a maintenu un niveau d'inflation bas. Je ne dis pas que les prix n'ont pas augmenté, mais on l'a quand même maintenu. Il y a un bouclier tarifaire pour que les gens puissent continuer à payer leur facture d'énergie. Aller dans d'autres pays pas très loin, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe, et vous verrez les résultats, ce que c'est qu'en fait le succès des mesures que nous
Mélenchon.
Ouais, mais en même temps, tu vois.
Messieurs, Mélenchon, lui, salue le premier acte d'un nouveau Front populaire. Ça vous inspire quoi? Nabila Itakache.
Ça m'inspire quelque chose de daté, encore une fois. Le Front populaire a obtenu des avancées sociales majeures pour notre pays, majeures pour les travailleurs, majeures pour la France. Simplement, on est en 2022 aujourd'hui, et je pense qu'il y a d'autres formes de dialogue, qu'il faut laisser le dialogue social s'organiser, que les salariés, que les ouvriers puissent pouvoir faire remonter leurs revendications légitimes sur les salaires et que les entreprises jouent leur rôle. Chacun doit être à sa place. Les entreprises doivent comprendre aussi qu'elles ont leur part à jouer dans cette revendication qu'ont les salariés aujourd'hui.
Le problème avec le dialogue social, c'est que le dialogue social a été et est un dialogue social frelaté par la Macronie. Pourquoi ? Parce que on constate que le dialogue social pour ce gouvernement, c'est pas un dialogue. En fait, un dialogue, quand on dit dialogue, c'est-à-dire que vous avez un échange d'idées. Alors, par exemple, toi et moi, en dialogue, on n'est pas d'accord, mais on dialogue. C'est-à-dire il y a une contradiction d'idées. C'est ça la base du dialogue. Et on a des arguments, on avance des idées, des arguments, on avance des avis, des opinions, et on essaie de dépasser la contradiction, et on fait une synthèse, et une fois qu'on a dépassé les contradictions, ben, on trouve un terrain d'entente. C'est ça, le dialogue social. Ce que vous présente au gouvernement, comme c'est sa politique, c'est le même état d'esprit dans lequel il est, hein, quand il fait passer le 49-3 par exemple, il est dans une perspective de domination et d'imposer ses directives. Il n'est pas dans une perspective de dialogue social.
Il ne dialogue pas
ce gouvernement-là. Tu vois bien, depuis le début, que Emmanuel Macron et tout ce gouvernement sont incapables de dialoguer. Il fonctionne par le 49-3 et cette logique s'étend au dialogue social avec les organisations syndicales.
Le 49-3, il vient parce que les représentants doivent pointer la vérité aux gens sur le 49-3. Je connais bien les procédures parlementaires. Comment un budget est voté au Parlement. Là, vous avez 3000 amendements qui ont été déposés par les oppositions. 3000 amendements. C'est-à-dire qu'il faut analyser 3000 amendements dans un temps imparti. C'est impossible, en fait. Donc, les oppositions ont créé les conditions de l'échec de la discussion sur le budget. Donc, bien évidemment, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'aller peut-être vers un 49-3. Donc, ne dites pas que le gouvernement, c'est sa volonté. On a reculé la rentrée parlementaire pour pouvoir laisser quand même un temps de discussion avec le gouvernement, avec Bercy, pour pouvoir laisser les oppositions faire leurs propositions et aller vers un compromis. Les oppositions ne veulent pas le compromis. Elles ont annoncé dès le départ qu'elles ne voteraient pas ce budget. Donc, bien évidemment, on ne va pas laisser les débats s'enliser. Donc, il faut pouvoir agir. Les Français attendent que nous agissions.
Ce budget, il
faut bien évidemment voter des crédits pour renforcer la sécurité, pour améliorer encore une fois les conditions dans lesquelles la justice est rendue dans ce pays.
Il faut agir, il faut avancer.
Jimmy Dalidou.
Tu sais que pour décider de l'avenir d'une nation, et le Parlement, effectivement, pour moi, c'est le Parlement, tu sais quoi, ça reste une opposition contrôlable, tu vois. Donc une opposition contrôlable et une opposition acceptable
pour la classe des
régions.
Le Parlement, c'est l'expression de la souveraineté nationale.
Il y a d'autres manières de fonctionnement pour ce pays. Je pense notamment au RIC. Je pense notamment aux différents référendums. Si le gouvernement voulait véritablement prendre décision d'une manière raisonnable, puisqu'apparemment il représenterait la raison, et que ce soit des décisions et une orientation politique qui s'orienterait vers le bien-être de tous les Français, bien, il prendra en considération la vie des Français. Pas une fois. Dis-moi le nombre de référendums qui ont été organisés en France.
C'est les élections.
Bah, tu vois, le référendum ou les RIC,
en fait.
Ça aussi, c'est une méthode de fonctionnement. Et pas une fois, ça a été mis en pratique. Ça démontre bien que le gouvernement est dans une perspective de domination. Est-ce qu'il veut ?
Nous sommes en démocratie.
On n'est pas dans une démocratie, on est dans une dictature du capital.
Nous sommes en démocratie.
On est dans une dictature du capital avec des extraits sociaux.
Vous ne savez pas ce que c'est qu'une dictature.
Il vous répond, Jimmy. Nabila et Takash.
Le camp que vous soutenez prend pour modèle le Venezuela. Voilà, c'est exactement.
Pas du tout.
Allez voir comment ça se passe. Allez voir comment ça se passe là-bas.
Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites.
Enfin bref, nous sommes en démocratie. Il y a l'expression de la volonté populaire.
Il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Dans les élections présidentielles, tu as eu 30% d'abstention. Et le président de la République est passé avec 20% des voix.
Les élections servent à désigner les responsables politiques de ce pays.
Restons
sur. Et c'est pareil pour le dialogue social.
Le dialogue social doit être un véritable dialogue social. C'est-à-dire que les représentants syndicaux et les travailleurs.
Entre les travailleurs et les entreprises.
Écoutez.
Alors cette marche justement, est-ce qu'elle a permis justement de, vous savez, demain on parle, ça y est, de plus en plus d'une journée noire. Demain c'est la grève générale, grand point d'interrogation. Les gens de la santé, l'éducation nationale, les cheminots, bref, beaucoup de syndicats appellent demain à une grève générale. Voire, peut-on parler d'une journée noire qui s'allonge demain, vous, représentant de la CGT, Jimmy Dalidou?
Alors oui, effectivement. Alors, première chose, c'est que la notion de grève générale, attention, parce que c'est une notion qui est assez... Je vais dire que c'est une notion à pas prendre, à pas utiliser n'importe comment. Vous voyez, une grève générale, c'est une, nous on la veut la grève générale évidemment, mais c'est le degré supérieur de la lutte. Je dirais pas, on n'a pas une boule de voyant devant vous, voyez, mais elle s'oriente vers effectivement une journée noire. Effectivement, la journée sera noire parce que tous les secteurs de production appellent à la grève. Chez nous, chez les cheminots, on appelle à la grève. Dès ce soir, la grève est déclenchée. À la RATP, c'est pareil.
Elle est très peu suivie dans les lignes de métro.
Privé, ils voudraient suivre, mais le problème.
Le trafic est quasi normal.
Le problème
normal,
privé, demain. C'est que souvent dans les TPE, PMI, PME, il n'y a pas d'organisation syndicale parce que les patrons préfèrent licencier que de voir les salariés créer des organisations syndicales. Donc forcément, ils n'ont pas suivi. Mais sinon, elles voudraient suivre. Alors, de là à ce que ça s'oriente vers une grève générale, c'est possible, mais ça voudrait dire que ça toucherait tous les secteurs de production. Mais en tout cas, les bases sociales qui amèneraient à une grève générale, et pourquoi pas à une grève insurrectionnelle par la suite, peut-être pourrait se présenter.
Donc j'appelle le gouvernement
à écouter les revendications des travailleurs et donc de la majorité des Français, à augmenter les salaires et à donner aux travailleurs français de quoi vivre dignement, décemment. Parce que lorsque
c'est quoi le mot d'ordre demain, c'est quoi?
Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, mais d'abord la revendication.
Donc c'est le pouvoir d'achat.
C'est augmentation des salaires. Pouvoir d'achat contre la vie chère, et ça c'est ce qui est priorisé. Et ça touche tout le monde.
Vous l'entendez ça, Nabil Itakash?
Bien évidemment que je l'entends, mais quand on écoute monsieur, on a l'impression qu'il est le seul à vouloir défendre le pouvoir d'achat. C'est, je pense que depuis le mois de juillet, le gouvernement a pris sa responsabilité, a agi sur ce sujet. Il y a les primes Macron qui permettent aux entreprises de pouvoir verser quand même des compléments de revenus un peu pour rééquilibrer les choses et redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Donc non, vous êtes pas les seuls à défendre le pouvoir d'achat.
Vous le défendez.
Vous avez parlé d'insurrection, l'insurrection c'est le chaos.
Non, j'ai parlé de grève générale qui ouvre la porte à une grève insurrectionnelle, c'est la galère pour les gens.
C'est normal, c'est pas vous qui allez en pâtir le premier.
Ce que j'ai dit, c'est une perspective si le gouvernement n'écoute pas.
Non, le gouvernement écoute.
Si le gouvernement n'écoute pas, c'est une perspective qui peut se présenter.
Le gouvernement écoute.
Et ça, que je sois d'accord ou je sois pas d'accord, c'est une analyse de la réalité objective. C'est-à-dire que la grève générale, c'est comme en juin de 1944. Ça part, et une fois que ça part, c'est parti. Donc si t'écoutes pas, t'écoutes pas.
Non, le gouvernement écoute, vous créez les conditions, en fait, de l'impossibilité du dialogue. C'est-à-dire que vous êtes, il n'y a aucune possibilité de discuter, en fait.
Mais attends, je vais t'expliquer une chose. Quand tu touches un SMIC, et qu'une fois que tu as touché ton SMIC, il est instantanément absorbé par toutes tes factures, tu n'as plus le temps du dialogue. Ce que veulent les Français, c'est une augmentation immédiate, tout de suite, immédiatement, d'une manière tangible et palpable, qu'on augmente leur salaire pour qu'ils puissent qu'ils puissent acheter à manger et donner un avenir convenable à leurs enfants. C'est pas compliqué.
J'ai ouvert l'antenne la semaine dernière. Beaucoup d'auditeurs partout en France disent effectivement vivent des situations extrêmement fragilisées. Ils disent que la vie, elle devient de plus en plus chère. Comment faire?
Oui, la vie, elle devient de plus en
c'est
plus
chère. C'est un peu
chère.
Le mot d'ordre pour demain.
Elle est difficile pour beaucoup, pour un certain nombre de nos concitoyens. Et on le sait. C'est pas le mécontentement sur ce sujet. On le connaît et on
ça
agit.
Ça fait 7 ans, vous le savez.
On agit. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, vous êtes caricatural.
C'est deuxième mandat. Est-ce qu'Elisabeth
Borne hier, par exemple, sur TF1, est-ce qu'elle a dit suffisamment les mesures qu'elle voulait déployer? Est-ce que c'est suffisant?
Encore une fois, je vous dis, notre objectif premier, c'était quand même de redonner déjà du travail aux Français. Et d'aider, encore une fois, les entreprises à redégager des moyens, des marges de manœuvre pour redonner du salaire aux...
Mais ça dépend ce que tu entends par entreprise. Parce que si tu parles des TPE, PME, PMI, tu sais bien qu'elles sont broyées.
Elles sont broyées par les multinationales. Sous le poids des charges. Non, elles sont broyées sous le poids des charges.
Parce que les mêmes charges. Parce que les multinationales ne payent pas leurs charges. font de ce que M. Macron appelle de l'optimisation fiscale. Est-ce que les multinationales payent pas en charges sociales se répercutent sur les petites entreprises? Elle est là, la réalité. Ah, il faut tout dire. Les TPE, PME, PMI payent les charges sociales que les multinationales ne payent pas. Parce qu'elles optimisent fiscalement.
C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous dites. Les multinationales, elles réalisent un chiffre d'affaires au niveau mondial. Elles payent des impôts dans les pays où elles réalisent la majorité.
C'est pour ça qu'il faut, redévelopper l'industrie au niveau national et qu'il faut produire au niveau national.
Oui. Non, mais il faut il faut dire la vérité aux gens. Je vous dis que quand on essaie de baisser les impôts et les charges, c'est pour les TPE, PME et pour les PMI, pour les artisans. C'est pour eux qu'on baisse les impôts. C'est pas pour Total. Total paiera ses impôts là où elle doit les payer, que ce soit à l'étranger où elle réalise ses activités ou en France. Où elle réalise une activité, enfin l'exploration pétrolière, c'est pas en France qu'elle la réalise, monsieur. Je pense que vous le savez.
Ouais, non, et Total, c'est pas une entreprise étrangère. Tu le sais bien aussi.
C'est une multinationale.
Ouais,
une multinationale paye des impôts là où elle dépasse
les cadres de la nation. Ça démontre bien qu'en fait tu es dans une perspective de mondialisation à outrance et que pour toi la production française est la valeur qui est générée en France, parce que ce qui crée la valeur. Attention, ce qui génère la valeur, c'est les travailleurs. C'est la force de travail exploitée dans les processus de production. Et une fois qu'elle a produit...
Mais il faut arrêter
de dire que les travailleurs ont produit cette valeur, la valeur est exportée à l'étranger où elle fait toujours plus de profit, ce qu'on appelle le surprofit. C'est toute la différence entre le profit et le surprofit. Donc pour toi, c'est normal qu'une multinationale aille exploiter d'autres de la main-d'œuvre à l'extérieur, qu'elle fasse produire aussi les travailleurs français et qu'elle paye pas d'impôts en France et qu'elle s'enrichit toujours plus ailleurs alors qu'à la base...
Donc ça promet demain la grève, hein.
Ah voilà, franchement, franchement, bravo, c'est comme ça qu'on va améliorer l'avenir de la France, tiens.
Messieurs, je voudrais juste qu'on marque la pause, la dernière avant de se retrouver pour la dernière ligne droite. Si vous souhaitez d'ailleurs, tiens, je vais ouvrir l'antenne. Si vous souhaitez réagir, interpeller un de nos débatteurs influenceurs. Un seul numéro, 01 53 48 3000. Là, tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
9h24 précisément, les informés, c'est avec Nabil Aitakash, le représentant de Renaissance sur la Seine-Saint-Denis, mais également Jimmy Dalidou, qui est le représentant CGT, mais également auteur. On poursuit ce débat, messieurs. Je voudrais juste, avant de passer au sujet suivant, qu'on me dise un petit mot demain. Comment l'exécutif observe la manifestation de demain, mon cher Nabil Aitakash? Est-ce que, effectivement, on regarde ça, et puis surtout, comment on compte s'y prendre?
Écoutez, il y a un droit de grève, il s'exerce de manière dans le cadre du droit. Mmh. On observe ça, bien évidemment, avec attention. On a vu les préavis de grève. Bon, c'est très peu suivi à la RATP, puisque le trafic va rester, au moins à Paris et en région parisienne, sera pas du tout perturbé. Vous avez trois trains sur quatre sur les RER A et B. Après, sur la SNCF, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, on observe ça. On laisse, bien évidemment, le droit de grève s'exercer. Et ensuite, les Français se positionneront par rapport à, encore une fois, une nouvelle journée de galère demain.
Jimmy Dalidou.
Alors, demain, effectivement, la grève en elle-même. Mais il va y avoir surtout des assemblées générales partout. Donc, par exemple, devant la gare de l'Est, un peu partout, des assemblées générales dans lesquelles il va y avoir des discussions et des débats de tous les travailleurs, de toutes les fédérations syndicales, de tout secteur confondu. Et voilà, ils vont discuter, ils vont débattre. Et encore une fois, la fédération, les organisations syndicales ne sont pas là pour donner des directives. La CGT, elle n'est pas là pour dire aux travailleurs ce qu'ils ont à faire. Elle est là pour les organiser, pour financer, il faut aussi pour financer, pour conseiller. Mais encore une fois, ce sont les assemblées générales des travailleurs qui vont décider de ce qu'ils vont faire. Donc, si les travailleurs dans les assemblées générales, on centralise, etc. Et si les AG demain décident d'une reconductible et de continuer la grève, bah, effectivement, un risque de s'aggraver. Et je pense que le gouvernement va observer. Vous savez, le gouvernement, c'est pas, pour moi, vous connaissez mon avis, il représente pas la totalité français, les Français. Il représente la classe dominante, la classe des riches. Donc lui, il aime pas, en fait, le gouvernement n'aime pas, il aime pas avoir les salariés qui discutent, qui sont solidaires, les salariés qui s'aiment bien, en fait, qui sont solidaires, qui s'entraident, qui discutent, qui débattent, qui débattent. La classe capitaliste n'aime pas observer la classe du travail, solidaire. Et en plus, qui discute, débat et prend des décisions sur son propre avenir. Mmh. Donc, elle va observer ça. Et si elle voit que la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français, s'organisent, elle va malheureusement passer à des répressions politiques qui ont déjà commencé, parce que aucun droit de grève n'est illégitime.
Les Gilets jaunes seront présents demain ?
Certains sont présents dans les AG, oui.
Allez, dernier sujet. Macron annonce une hausse de la prime pour l'achat d'une voiture électrique. Vous savez, les foyers les plus modestes, justement, là, je suis en train de lire, pourront dorénavant toucher une prime de 7000 euros contre 6000 auparavant. Ça, c'est une annonce qui a été faite, donc, par Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'évidemment, il peut y avoir un élan se procurer une voiture électrique quand on voit la pénurie du carburant?
Vous savez, oui. L'impérialisme, c'est le stade suprême de la catastrophe écologique. Stade suprême de la catastrophe écologique. Et la notion, ce sujet de la voiture électrique, elle est liée, elle est corrélative d'un sujet, effectivement, qui est important, vital.
Voilà. Ils appellent ça le bonus écologique.
Ouais, mais en même temps, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que pour créer une... Alors, le problème, c'est que si vous roulez dans une voiture électrique, mais que dans le même temps, vous avez un jet privé qui vole, et vous avez des jets privés qui font le tour du monde et qui utilisent du fuel, ça ne changera rien à l'affaire, vous voyez. Et de plus, ça va ouvrir la porte à une production, une nouvelle. En fait, c'est une tentative de renouvellement de la production. Je prends un exemple concret. Une Renault Zoé, une petite Renault Zoé. Tout simple. Mmh. Il y a 7 kilos de lithium, il y a 11 kilos de cobalt, et il y a 34 kilos de nickel, à peu près. Le cobalt, vous le trouvez où, le cobalt? Cobalt, il n'y en a pas en France. C'est une matière première que vous trouvez sur le continent africain. Et le cobalt, il est extrait des mines par des enfants qui sont exploités justement par les multinationales que tu défends. Et donc ça va. C'est une tentative de renouvellement de la production, mais qui malheureusement va étendre ses métastases un peu partout. Là où l'impérialisme exploite la manœuvre bon marché, exporte ses capitaux, là où il fait du surprofit. Et malheureusement, encore une fois, moi je veux bien rouler en voiture électrique. Mais si je vois, il y a du gouvernement qui se tape des délires dans son jet privé, on s'en fout, en fait, tu vois.
Alors, Nabil Aitakash.
Franchement, je sais même pas quoi répondre. Je sais même pas quoi répondre. Le gars du gouvernement qui se tape des délires dans son jet privé. Vraiment n'importe quoi.
Parce que quand tu prends un jet privé pour aller à l'autre bout de la France, c'est un délire.
Laissez-le répondre.
On va revenir sur le sujet qui est quand même assez sérieux.
Qui prennent le train, c'est mieux.
Et on va revenir sur un sujet qui est très sérieux, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut agir, il faut pouvoir aider tous les foyers pour pouvoir se doter quand même d'un véhicule électrique qui permettra de baisser donc les émissions de carbone. Et oui, tout ce qui va dans le sens de dynamiser ce marché d'électrique qui reste encore très cher pour les foyers modestes, c'est un coup de pouce en plus. Voilà, c'est 7000 euros de bonus pour les foyers modestes, parce que tout le monde doit participer à l'effort de lutte contre le réchauffement climatique, et on le fait pas.
Tu sais bien, ça va poser trop de problèmes, parce que les voitures électriques, ça va poser le problème des bornes. Par exemple, les bornes pour recharger ta voiture électrique, ça pose la question de la production et des centrales nucléaires. Tu sais bien que les centrales nucléaires, la maintenance des centrales nucléaires ne va pas.
Merci. C'est ça qu'il faut voir. À Jimmy Dalidou, bonne grève pour demain.
Merci à tous.
Merci, représentant CGT. À très vite. Merci à Nabil Aitakash, le représentant de Renaissance sur la Seine-Saint-Denis.
Merci à vous.
À très vite.
À très bientôt.
Merci à vous. Et puis, Bilal Nenman vous donne rendez-vous donc de 20h à 21h. Ah, non, on me dit qu'il n'est pas là. Justement, donc, pour tous les fans de Time Sport, eh bien, ce soir, il ne sera pas présent sur l'antenne. Eh ben, demain, avec autant de plaisir. Et surtout, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.